Le jeudi 13 janvier 2022 a eu lieu le premier séminaire du projet ANR Sensibilia, sensibiliser l'enquête de terrain. Après les interventions de Laurent Demanze et François Laplantine, à retrouver également sur Canalu, la discussion continue sur les notions de terrain et d'enquête.
Bon, on a une bonne, au moins une bonne demi-heure, hein. Je pense que on n'a rien qui est défini derrière. Merci à tous les deux parce que voilà, vos propos sont très, très riches, très convergents, hein, pour l'essentiel. Alors on a un temps d'échange qui va s'organiser aussi à partir de quelques-unes de nos pistes, de nos questions, du programme d'enquête. Je sais pas, on peut en lancer une ou deux pour commencer, mais et on va regarder aussi l'écran progressivement, hein, pour que la parole circule. Peut-être un point, j'ai deux points en tête. Le premier, c'est que de manière subreptice un peu, François disait tout à l'heure, je n'utilise jamais le terme d'enquête. Ça vaut peut-être le coup, vu l'importance qu'on donne à l'enquête, que l'on y revienne et que l'on comprenne en fait le motif de ne pas utiliser cette notion. Voilà, ça je pense que ça mériterait peut-être un peu d'élucidation. Puis moi j'aurais bien aimé qu'on revienne, et c'est une des questions qu'on soulève collectivement, sur cette question de la prétention à la montée en généralité dans les sciences sociales. À écouter François, on pourrait penser qu'il faut mettre ça peut-être relativement loin, que ça procède toujours d'une pensée saltatoire et qu'il y a du coup de force derrière. Mais on laisse de côté cette montée en généralité, qu'est-ce qui prend la place? Et donc on pose un peu cette question d'un autre geste de recherche qui viendrait prendre place. Est-ce que c'est une montée à l'horizon? Est-ce que voilà, et je me disais en même temps, tout en écoutant François au tout début, que il y a tout de même de la généralité. Par exemple, cette généralité, c'est le Japon, la Chine, le Brésil, qui sont exprimés comme des qui ont affecté, en fait, François, le désabusement, l'optimisme, etc. Donc là, il y a bien eu de la montée en généralité à un moment donné. Voilà, moi j'avais un peu ces deux questions, remarques pour commencer. Et puis ensuite, on va continuer nos questions. Alors, on regarde l'écran. François, peut-être.
Mais je peux répondre à la question de enquête.
Enquête, oui.
Ben, moi, je n'utilise pas le mot.
Bonne réponse.
Non, mais attendez, c'est parce que je trouve que c'est très lié à la sociologie classique, mais ça a quand même une résonance policière. C'est quand même la police qui fait des enquêtes, mais plus sérieusement. Alors, j'utilise jamais le mot enquête, puis alors, il y a un mot que je bannis encore plus, c'est le mot informateur, qui vient de l'anthropologie coloniale. Mais pourquoi critiquer la notion d'enquête? Parce que enquête, ça suppose, à mon avis, un sujet extérieur, supérieur, antérieur, premier, qui va vers un objet. Alors, ce qui est le plus important dans le terrain, ce n'est pas celui qui va vers, c'est ce qui vient de, c'est ce qui survient dans. Vous voyez, c'est ce qui survient dans une expérience de terrain, c'est ce qui devient, c'est ce qui revient. Je pense que ce n'est pas seulement sémantique, ça engage quand même une certaine conception que nous avons avec ceux auprès desquels nous n'enquêtons pas, mais nous partageons une partie de l'expérience, de l'existence, et qui peuvent même devenir des intimes. L'enquête, là, ça suppose une distance. L'anthropologie, la sociologie, elles sont aussi faites de distance critique, mais il y a un moment de partage, d'immersion, où moi, je ne souhaite pas cette distinction sujet antérieur, extérieur, supérieur et objet. Voilà.
Enfin, moi, c'est un terme que je revendique pleinement, en revanche, mais pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison, je dirais, d'histoire épistémologique, c'est-à-dire que beaucoup des écrivains ou des chercheurs en sciences sociales que je mobilise dans le livre ils ont la conscience de, de cette tradition, de cette origine policière, coloniale, inquisitoriale. Et maintenir le thème d'enquête, ça souligne que ces chercheurs, ces écrivains ont une vigilance envers la violence symbolique que propose ou que provoque le fait de venir à la rencontre, d'interroger. Voilà. Ça, c'est une des premières raisons. Deuxième raison, c'est que le motif de l'enquête, c'est un motif qui est, et c'est bien ce que montre Boltanski ou ce que montre Khalifa, c'est un motif qui se trouve au croisement entre sciences sociales et le roman policier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'enquête qui relève d'un rapport à l'énigme. Et ce rapport à l'énigme, c'est aussi ce qui va susciter l'étonnement, hein. Un rapport à l'opacité, un rapport à ce qui ne va pas de soi. Et donc, de ce point de vue-là, je tiens à maintenir, et aussi parce que du coup, ça nous rend attentifs aux porosités entre les champs, aux phénomènes de circulation. Et c'est ce que montre Boltanski dans Énigmes et complots, hein, comment les sciences sociales vont aller puiser des modèles et des motifs à l'intérieur de la littérature policière, d'espionnage, etc. Et enfin, troisième raison, j'aime beaucoup le terme d'enquête. Pour une autre tradition, c'est la tradition pragmatiste. C'est-à-dire que le terme d'enquête est revendiqué par John Dewey, hein, comme vous le savez, et cette proposition pragmatiste transforme l'enquête en un espace qui est un espace collaboratif et un espace très fortement démocratique. On évoquait tout à l'heure une intelligence collective. Il me semble que ce que pointe John Dewey dans le geste même de l'enquête, c'est la constitution d'un espace d'interrogation mutuelle, réciproque, sur ce qui fait question dans le monde pour arriver à un point d'accord. Enfin, il y a vraiment une idée de négociation démocratique dans le terme d'enquête tel qu'il est proposé par John Dewey.
Et peut-être, je veux bien, je ne sais pas s'il y a un rebond sur monter en généralité, monter à l'horizon, que faire de ces tentatives. Alors certains diraient prétention, d'autres diraient en même temps construction de concept ou... qui peut être certes l'apanage de la philosophie, mais peut-être pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet horizon? Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous voulez...
La montée en généralité en littérature, elle est complexe. C'est-à-dire que vous vous souvenez sans doute de la leçon inaugurale de Barthes au Collège de France, hein, qui disait que la littérature porte des savoirs, mais qu'elle relève d'une mathesis singularis. Et il y a... de la part de beaucoup d'écrivains, cette revendication d'une pensée par cas et de rester arrimé à cette pensée par cas et à un concret, avec une difficulté du coup à aller vers la généralité. C'est pour ça que bien des enquêtes d'ailleurs sont des enquêtes qui peuvent relever d'un rapport au biographique, à la restitution biographique d'une figure, de la vérité d'un individu. On évoquait tout à l'heure Jablonka, Histoire des grands-parents que je n'ai jamais eue, est un texte dans lequel il est à la recherche de la singularité ou de l'unicité de ces figures grand-parentales. Alors avec toutes les difficultés, les apories, les impasses que ça suscite, mais il en est à ce désir de restitution de l'unique. Hein. Il y a, sous le signe de Barthes, hein, de la lecture barthésienne de la littérature, cette idée de la littérature comme un mouvement vers l'unique, qu'on pourrait nuancer, hein, qu'on pourrait très fortement nuancer, parce que ce mouvement vers l'unique, il est contrebalancé malgré tout par des moments de généralisation, mais voilà, il est quand même orienté vers le cas concret.
Juste, je peux réagir là, juste.
Oui. Oui.
Mais c'est juste là encore, je suis pas d'accord. c'est
bien.
Moi, je dis pas généralité. Généralité, on est du côté de l'abstraction, on est du côté de l'univoque. Pourquoi ne pas parler de l'universel? Vous voyez, c'est à partir de la singularité, ce n'est qu'à partir de la singularité, du cas concret, empirique, que nous parvenons à l'universel. Mais pas à l'universalisme français républicain, un véritable universel. Donc je préfère dire ça. Mettre en relation singularité et universelle que généralité qui, je pense, tend vers l'abstraction. C'est un peu des distinctions sémantiques.
Non, c'est important. Enfin, je sais pas, il me semble que dans l'universel aussi, il y a... il y a quelque chose comme, on parle beaucoup, enfin, la notion de commun est vraiment une notion importante aujourd'hui. Enfin, je pense que dans les réflexions un peu postcoloniales autour de l'universel, on va vers des universels modestes ou vers des universels du commun plutôt que vers l'universalisme. Donc, je pense que c'est un point important.
C'est la notion, ce qu'il faut réfuter, c'est la notion des universaux, ce qui nous engagerait dans le débat de la structure. La structure, elle est générale.
Et alors, est-ce qu'on peut pour autant postuler la singularité, et est-ce que la spécificité ne serait pas plus, ne postulerait pas forcément l'unicité, qui peut aussi nous amener vers une intériorité que vous avez largement brocardé, hein, c'est pas le sujet d'y revenir. Bon, ça peut être une discussion seulement sémantique, je voudrais pas surtout monopoliser une discussion. Nathalie, et puis on ouvre à d'autres questions au rebond, hein, bien sûr.
Ouais. Moi, j'avais plus des questions de l'ordre de forme d'écriture, on en a un petit peu parlé. J'ai entendu chez François Laplantine des tentatives de description ethnographique, et donc je voulais savoir pourquoi le mot tentative, en fait. Est-ce qu'il y a derrière, est-ce que ça sous-entend que c'est très compliqué, très difficile, que ça mobilise plein de choses, enfin, quand vous parliez de trois villes pour lesquelles vous aviez tenté ces descriptions. Et puis, voilà, savoir si c'était le seul moyen, enfin, je pense bien que ce n'est pas le cas, mais en vous lisant, on voit aussi l'haïku, vous avez l'air de renoncer à la poétique, alors je voulais savoir pourquoi. Est-ce que tout ce qui est de l'ordre du poétique ne pourrait pas rendre compte de ce qui vous anime, hein, ce que j'ai compris plutôt dans le sens du mouvement, du son, enfin des choses qui sortiraient de tout ce qui est une pensée du signe, mais vers une pensée du rythme. Et pour moi, la poésie pourrait peut-être y mener. Et voilà, peut-être savoir aussi ce que vous pensez de l'écriture fiction. Et là, je pense qu'il y aurait un dialogue possible avec Laurent.
Bon, je vais vous répondre très rapidement, mais je voudrais en vous répondant peut-être faire des remarques sur ce que nous a proposé Laurent. Non, moi, je ne renonce pas du tout à la poétique, pas du tout. Mais j'entends poétique au sens grec, c'est-à-dire d'acte, au sens de faire, et non pas de genre littéraire. Alors, là, la question, oui, c'est là, moi, la question, je la retourne vers Laurent, parce qu'il a parlé de textualité. Alors, quelle est la... Il pourrait préciser sur le... Pérec, c'est un auteur de la description ou moins de la narration. Vous pourriez préciser la distinction entre description et narration, la différence entre ou la tension entre description et narration, d'une part dans le champ littéraire et d'autre part dans le champ des sciences sociales. Je pense que la description, elle est liée à l'espace. La description, c'est la description de l'espace. La narration, elle engage du temps. Alors, je voudrais dire à Laurent, alors j'ai bien aimé ce terme de porosité entre les genres, mais est-ce que le fait d'écrire deux textes séparés, ça ne reconduit pas la dualité ? Il y a d'un côté, chez Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté qui est le scientifique. Et puis, il y a Triste Tropique qui est littéraire. Mais ça commence très tôt. Hein. Ça commence dès le premier ethnographe qui est Malinowski. Et Malinowski, il y a d'un côté les Argonautes du Pacifique et de l'autre côté, il y a le journal d'ethnographie. Puis, il y a aussi des auteurs qui abandonnent l'un des versants complètement. Par exemple, Michel Léris. C'est certainement un auteur sur lequel vous avez travaillé. Michel Léris, il abandonne l'ethnographie pour se consacrer à la littérature. Et où situer Georges Bataille ? Où situer Georges Bataille ? Alors, moi, j'ai bien aimé, je parle un peu en zigzag, ce que vous avez dit sur Pérec, l'étonnement, l'enfantin, l'étonnement contre le sensationnel. Et ça, je crois que c'est vraiment la démarche de l'anthropologie, c'est-à-dire de rendre familier ce qui nous est initialement étranger et de rendre étrange ce qui nous est familier. Mais vous avez consacré votre intervention au rapport entre deux régimes de textualité, deux régimes d'écriture qui se rencontrent. Or, est-ce que ça vous intéresse ce qui, dans l'expérimentation artistique, dans l'expérimentation, oui, ne se réduit pas au langage. C'est là le rôle du cinéma, des images, du théâtre, du spectacle vivant, des arts contemporains. Et puis, il y a une partie de la recherche en sciences sociales dans laquelle le chercheur ne fait pas le choix du langage. Il va aborder la recherche par un film ethnographique. Alors, ce n'est pas du tout conseillé pour les doctorants, hein, parce que c'est quand même le discours qui prime, hein, sur le geste. Donc, à travers ma réponse très brève, peut-être j'ai des questions à relancer du côté de Laurent, dont je me sens vraiment très proche.
D'abord pour dire que oui, effectivement, enfin, c'est ce que dit exactement Vincent Debanne, hein, le fait qu'il y ait un deuxième livre, c'est au lieu d'une confusion des espaces de discours ou c'est la manifestation d'une différence maintenue. Donc c'est exactement ça. Mais en revanche, ce que propose à sa suite Éléonore de Vevey, c'est une reconfiguration des champs qui se jouent de manière très différente, hein, et notamment autour de la question du terrain. Moi, je voudrais peut-être revenir sur la question de la narration, parce que c'est vraiment une question, me semble-t-il, importante, et il me semble qu'elle se jouait aussi dans ce qui nous était dit ce matin. Un des enjeux de la narration, et c'est ce que souligne Yvan Jablonka dans son manifeste, c'est de pouvoir mettre en évidence les coulisses de la constitution du savoir. Ce qu'il va chercher dans la narration, c'est non pas des résultats, mais les origines du processus de connaissance, et donc les égarements, les tâtonnements, tout ce que Sophie Carantini évoque comme les non-dits de l'anthropologie. Et donc il y a une dimension qui est une dimension de dévoilement, de désoccultation des modes de constitution du savoir. Et Yvan Jablonka associe la narration à une deuxième fonction à laquelle je suis attaché, c'est qu'il y a dans la narration la possibilité pour le lecteur d'être dans un rapport de réeffectuation des procédures du savoir. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'opposition entre Spinoza et Descartes du point de vue de la méthode. En mettant, en narrant les conditions de constitution du savoir, le lecteur, à son tour, est engagé dans une contre-vérification. Et il souligne de ce fait-là qu'il y a dans la narration quelque chose comme une procédure ou un régime d'écriture particulièrement démocratique. À la fois, c'est ça qui me semble, qui m'intéresse moi dans la narration, c'est mettre en évidence la fragilité du savoir, c'est-à-dire non pas poser une légitimité ou une autorité, et d'autre part, ouvrir le savoir à des formes de discussion sur les modalités de sa constitution. Et puis il y a une troisième fonction de la narration, me semble-t-il, qui me semble importante. C'est ce qu'un narratologue contemporain évoque quand il parle de tension narrative. Et cette notion-là de tension narrative, on peut l'articuler d'ailleurs aux formes un peu avec des rémanences de récits policiers ou de récits d'espionnage. C'est des moyens d'impliquer émotionnellement le lecteur. La narration, c'est un texte dans lequel le lecteur est pris par des mouvements qui sont des mouvements de tension, de cristallisation d'attention, de mise en évidence d'hypothèses qui vont être déjouées par des surprises, déguiser la curiosité. La narration est un outil d'intensification de la participation du lecteur. Et il me semble que ce qu'on a vu ce matin aussi, alors transposé du côté de la fiction, ça produisait un effet de narration et un effet d'implication, me semble-t-il.
Et surtout, ça crée du plaisir, ça crée de l'effroi.
Oui. Et qui sont pas, comment dire, qui sont pas...
Que parviennent pas à faire la description.
Oui, qui sont pas opposés au savoir. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire, il y a une thymique ou une émotion du savoir qui se met en place au sein de la narration.
Oui.
Alors, d'autres rebonds pour François, pour Laurent, pour nous, Jean-Paul, et du coup, je pense qu'on passe le micro.
Oui, bonjour François, je te vois à distance et tu ne me vois pas, donc tu vas m'entendre simplement. Y a deux termes que j'aimerais vous proposer en discussion à tous les deux qui n'ont pas été prononcés, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est le terme de situation et puis le terme d'évocation. C'est-à-dire le terme de situation, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas dans le travail, alors si on n'utilise pas le terme d'enquête, en tout cas celui du terrain, l'idée de mettre en avant ce moment-là de la situation comme un moment d'exercice de la sensibilité particulier, un format particulier d'exercice de la sensibilité, et derrière ça, de mettre en avant le moment d'imprégnation à un espace-temps voilà, particulier, concret, dans lequel on s'inscrit. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce format-là, de la situation liée aussi à un processus d'imprégnation progressif de, voilà, d'un terrain. Et puis le deuxième terme, celui d'évocation, alors là, ça revient à la question du langage. On parle de narration et on parle de description, mais est-ce qu'il n'y a pas, et peut-être c'est pour poursuivre la question de Nathalie d'une certaine manière, dans le langage, et si on s'intéresse à la question du sensible au sein du langage, la dimension de l'évocation et de la suggestion à mettre en avant, comme, voilà, pas seulement rendre compte de faits, mais d'incorporer le sensible au sein même de manière de d'écrire.
Oui. Alors, je vais commencer par la question de la situation. Oui, la question de la situation, elle est essentielle. C'est d'ailleurs un des points sur lequel je travaille un peu dans le livre, notamment sur l'exposition des coordonnées physiologiques, intimes, institutionnelles aussi du chercheur ou de l'écrivain, de l'écrivaine. On a évoqué tout à l'heure une nécessité de savoir situer comment dire, bien des écrivains, écrivaines ou chercheurs, chercheuses qui sont rassemblés dans le livre, disent cette exigence de mettre en avant, alors de manière très différente, les espaces d'insertion, de situation de l'individu, notamment tout ce qui relève de l'expérience physiologique, qui est vraiment essentiel. Alors l'évocation, c'est vraiment un thème qui est un thème très, très beau, je trouve, sur lequel je n'ai pas réfléchi frontalement, mais ce qui me semble intéressant dans beaucoup des enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il y a des tentatives de restitution d'une figure qui sont marquées par l'inachèvement, l'inaccomplissement ou l'impossibilité. Alors que ce soit Modiano avec Dora Bruder, que ce soit Jablonka avec, ou Mendelssohn avec Les Disparus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de essayer de restituer sans enfermer dans des modes de représentation, c'est-à-dire montrer, Perec l'évoque, ce qui reste, ce qui fuit, ce qui échappe. Et il me semble que l'évocation, ça pourrait être ce mode alternatif à la représentation descriptive, clôturante, voilà, qui souligne en quelque sorte l'inachevable de l'enquête. Hein, on parlait d'Éric Chauvier avec Laurent. C'est toujours bizarre de se dire Laurent à quelqu'un d'autre. C'est un moment où le texte, vraiment un des premiers textes très importants d'Éric Chauvier, Anthropologie, se termine par l'enquête continue, ou l'enquête est à prolonger. Hein, et il me semble que cette dimension d'inachevable ou d'inachèvement, de prolongement ou de suspension rencontre cette question de l'évocation. Hein. Comment dire sans saisir ? Il y a une formule de Barthes dans Fragment d'un discours amoureux qui parle de la caresse et qui dit c'est le non-vouloir saisir. Il me semble que du point de vue du langage, l'évocation, c'est le non-vouloir saisir.
Là, je suis vraiment en accord complet avec Laurent. Situation. Alors, tout phénomène social, il est en situation. Une situation, ce n'est rien d'autre qu'une interaction. Et là, peut-être, dans ta question, Jean-Paul, il y a la situation du chercheur. C'est différent la situation provoquée, si on est homme ou femme, noir ou blanc, jeune ou vieux, chercheur connu ou pas connu, doctorant, prof d'université. Puis dans le cinéma et le théâtre, on procède par une mise en situation. Alors, je rappellerai également que le premier qui utilise le terme de situation, c'est Jean-Paul Sartre. Hein ? dont toute une série de livres s'appelle Situation. Alors sur les vocations renvoient à la suggestion. Je suis vraiment d'accord avec ce que dit Laurence. L'intérêt de l'évocation, c'est qu'elle n'est pas frontale, elle n'est pas directe, elle est modeste, il n'y a pas une maîtrise totale. Et la suggestion, c'est plus prégnant dans la langue japonaise et surtout dans la langue chinoise, dans les kanji qui procèdent par image. Et c'est l'utilisation de la métaphore. La métaphore, elle évoque, mais elle résout pas, elle enferme pas, elle est l'inverse du concept. Mais je te remercie pour ces deux questions et je suis content de t'apercevoir.
Ouais, c'était une question à propos de l'abandon du langage, en tout cas à un moment de l'enquête ou de la recherche, du questionnement. Je pense au texte de Jeanne Favret sur le fait d'être affectée et peut-être encore plus à son ouvrage qu'elle a écrit après la restitution de son travail sur la sorcellerie, du coup corps pour corps, où en fait elle a pu comprendre ce qui s'était joué dans son corps seulement après un travail de psychanalyse et du coup d'écriture et de choix de ces fragments de carnet de terrain. Et du coup, ce que je me demande, c'est en fait dans quelle mesure on peut avoir une approche sensorielle sans passer à un moment donné par une prise de distance et une formalisation qui suppose aussi des procédures et une organisation particulière, quoi. Voilà.
Moi, je suis un peu mal placé pour répondre, puisque je travaille sur des écrivains et des écrivaines donc qui sont nécessairement dans un rapport au langage, dans un rapport de désir de langage. Un des éléments que j'entends beaucoup dans votre question aussi, c'est la question de l'a posteriori, la question de la décantation, la question du temps long de l'expérience. Oui, ça c'est un élément qui me semble important. Alors je pense pour les chercheurs en sciences sociales comme pour les écrivains et les écrivaines, de souligner que l'étonnement, ce n'est pas nécessairement un étonnement sur le terrain, ce n'est pas nécessairement un étonnement dans l'immédiateté, ce n'est pas nécessairement, pour reprendre une formule d'Emmanuel Carrère, ce qui fait effraction dans l'immédiateté de la rencontre. C'est parfois des pratiques qui sont des pratiques d'après-coup et qui relèvent au sens photographique de la révélation. Et donc qu'est-ce qui vient révéler ces formes d'étonnement, d'inconfort, d'instabilité de soi? Moi, les écrivains, ça va être par le langage, et donc et par certains dispositifs qui vont être dispositifs particuliers. On évoquait Pérec. Je ne sais pas si vous souvenez du protocole qu'il avait mis en place pour Lieu, qui n'a jamais été publié. Ça va paraître de manière posthume là sous peu. Il devait décrire à intervalles très réguliers des lieux de son existence, en les décrivant sur le motif, sur le terrain. Puis il devait les décrire de mémoire, et puis avec tout un système d'intervalles très réguliers. Et ce qui l'intéresse, c'est précisément cet effet de décantation. Il dit un triple vieillissement. Un vieillissement des lieux, un vieillissement de ma mémoire, un vieillissement de mon écriture. Et donc c'est ce protocole de longue durée qui l'a intéressé et qui est un dispositif de suscitation d'inconfort ou d'étrangeté. Hein, qui est...
Oui, moi je vous répondrais qu'il faut affirmer à la fois la nécessité et les limites du langage. Le langage ne peut pas tout. Et ce qui nous met en garde contre... la surévaluation du langage, c'est notamment la pensée taoïste. Alors, moi, je vais vous répondre par les trois propositions de Wittgenstein. J'en ai rappelé deux et la troisième est beaucoup moins connue. Le Tractatus s'achève par la proposition « Ce qui ne peut être dit, il convient de le taire ». Donc là, il y a une incitation au silence à laquelle Wittgenstein, fort heureusement, ne s'est pas tenu, puisque tout son enseignement à Cambridge consiste à parler, mais à cesser d'écrire. Donc ce qui ne peut être dit, il convient de le taire. Et la deuxième proposition, c'est ce que je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, ce que nous ne pouvons pas dire, nous pouvons le montrer. Alors ça, cette tension entre dire et montrer, je trouve qu'elle est constitutive de nos disciplines et aussi de la création artistique. Mais la dernière proposition, c'est ça, ça devient très intéressant, ce que nous ne pouvons pas dire, nous pouvons le montrer. Cette dernière proposition se retourne une troisième fois en une autre qui est ce que nous pouvons montrer, il faut essayer d'en parler. Ce que nous pouvons montrer, il faut essayer de le dire. Et alors là, véritablement, on est au cœur de l'anthropologie. Donc il faut s'interroger sur les limites du langage, ce que peut le langage, mais aussi ce qu'il excède. Ce qu'il excède, ça ne veut pas dire pour moi ce qui le dépasse, ce qui le transcende, ce qui le sublime, mais ce qui l'exaspère, ce qui le met à l'épreuve, ce qui le met en déroute, mais peut aussi le remettre au travail. Donc vous voyez, moi, je ne préconise pas du tout le mystère, l'ascèse, le silence, le secret, mais tenter de parler de ce qui a du mal à être dit. C'est là où, bien entendu, l'écriture littéraire, elle est capable de complexifier les idiolectes savants des sciences sociales classiques.
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une première question sur le modal, la modalité qui a beaucoup été introduite comme sous l'angle de la nuance, du serpentin, et qui me semble aussi aller chercher quelque chose du côté de l'inéluctable. Et notamment, vous avez mentionné Georges Bataille, quand il dit qu'on ne décide pas de la quantité de la perte, mais de comment on va perdre. Finalement, on ne décide pas si on va mourir ou ne pas mourir, mais voilà, c'est la question du comment, comment on va faire les choses. Donc ce rapport à l'inéluctable, qui quelque part est presque radical, comment ça traverse la question de la modalité, voilà, qui paraît à prime abord comme une forme d'enquête, d'enquête ou d'expérience, en tout cas plutôt heureuse. Et puis j'ai une autre question, mais pour laquelle je n'ai pas encore de mots, c'est-à-dire je n'arrive pas à la formuler, mais ça, c'est autour du terme d'énergie qui revient au cœur de l'expérience. Et qu'est-ce que ça suppose, non pas comme arrière-plan, parce que j'ai bien compris qu'il n'y a pas de structure en arrière-plan, mais est-ce que ça suppose quand même une forme de totalité? Est-ce que ça suppose quand même une vision du monde je ne sais pas s'il faut dire un holisme, je ne sais pas comment il faut poser la chose, ou s'il faut laisser la chose ouverte et laisser les choses circuler au travers de l'expérience pour en apercevoir quelque chose.
Bien. Alors, je vais essayer de répondre le premier. Je ne vois pas très bien le lien que vous faites entre modal et inéluctable, parce que le modal, c'est aussi ce qui ouvre des possibles. C'est aussi ce qui ouvre un horizon. Moi, ce que j'appelle modal, c'est les manières d'être, c'est les manières d'être ensemble, c'est les formes de nos comportements. Et donc, c'est pas la question de l'être, mais c'est la question du comment. C'est comment faire. Bon, alors moi, j'ai pas compris pourquoi vous liez à inéluctable. Quant à l'énergie, je crois qu'on a du mal dans la pensée scientifique, en sciences sociales, peut-être plus que dans les sciences physiques d'ailleurs, à penser l'énergie, parce que nous avons été formés depuis longtemps, depuis Aristote, dans la pensée de la catégorie. Et l'énergie, c'est à bien des égards l'impensé de l'Occident. C'est ce qui est difficilement pensable, c'est ce qui résiste à être dit. C'est pourquoi c'est tellement intéressant, mais bien entendu qu'on ne peut pas, comme nous le faisons dans ce séminaire, aborder la sensibilité sans tenter de parler de l'énergie. Mais c'est très difficile d'en parler, pour plutôt essayer de le montrer, sans renoncer pourtant à en parler.
Nicolas ?
Merci. Merci à tous les deux. C'est passionnant et ça résonne avec beaucoup de choses. Et un des liens que je voudrais questionner peut-être entre vos deux travaux, vos deux présentations, je trouve que, enfin, on est nombreux à trouver que, par exemple, Georges Perec a cette qualité de nous donner envie d'écrire et de nous donner envie, à son tour, de d'énumérer son quotidien, de prendre du temps et je dirais de suivre un protocole. On sait qu'en le suivant, on n'arrive pas forcément à la qualité des travaux de l'écriture de Georges Perec, mais quand même, on pourrait dire que Georges Perec a généré énormément d'écriture dans son travail. Dans l'anthropologie modale, et je prends par exemple ce qu'on a fait ce matin, c'est on est parti explorer des sols, un lieu, etc., etc. C'est un peu comme avec Georges Perec, il n'y a rien d'intimidant. C'est-à-dire que les choses nous sont données, la façon de procéder, et elles nous sont données au sens presque comme un mode d'emploi ou comme une attention apportée à, et comme le fait que ce que l'on va dire des choses ne relève pas d'un savoir expert, mais au contraire d'un savoir du quotidien, qu'on n'ose pas forcément mettre dans le champ des savoirs, etc. Et aujourd'hui, les Georges Perec et d'autres écrivains, ou ce rapprochement entre ethnologie et littérature, et entre science du vivant, science de l'atmosphère, savoir anthropologique de ce qui nous entoure, et pratique artistique, pratique de médiation, etc., il y a une porosité très forte qui fait que, grosso modo, nous ne produisons pas que des textes ou que des savoirs sur notre rapport au monde, mais on produit des situations ou des choses qui mettent les gens en situation de le faire à leur tour. Et en cela, il y a quelque chose d'un jeu qui est assez nouveau, qui est, je sais pas, c'est quasiment un enjeu politique ou d'émancipation ou de réattention, de réancrage à notre monde, mais qui me paraît être du même ordre. Et je me rappelle, je ne sais plus qui m'avait dit ça ou qui l'avait dit, mais sur la musique concrète, que la musique concrète, en gros, n'avait pas forcément généré au début. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que tout est musique concrète aujourd'hui au sens où on manipule le son, mais n'avait pas généré beaucoup de musique qui se vendait chez les libraires, mais avait généré énormément de musiciens. Et ben, c'est un petit peu ça que je ressens aussi. C'est-à-dire tous péréquiens, tous anthropologues modales, etc., etc. Il y a quelque chose un peu comme ça que je trouve être une... Et alors, je ne sais pas si c'est un moment, si c'est un temps. Voilà, c'est aussi cette question de l'effet de mode. On voit bien qu'il y a aussi un effet de mode. Hein, on en parlait entre midi et deux à quelques ans. Voilà, c'est juste à la fois une remarque, une forme de question, de lien entre vos deux interventions.
François, vous voulez répondre d'abord ?
Mais je ne sais pas ce que je vais répondre.
Je peux commencer.
Allons-y. L'intérêt de Perec, c'est qu'il nous fait parler. Hein, vous voyez, il suscite l'interrogation. Et j'aime bien ce que vous dites. Chez Perec, mais bon, je n'ai pas relu depuis longtemps, les choses sont là, on dirait, les choses sont là, c'est ainsi. C'est un peu comme chez Tchekhov, vous voyez. On constate, mais on ne pose pas du tout la question du pourquoi. On ne pose pas la question du sens, du pourquoi. C'est complètement lointain de tout horizon religieux. Il y a un constat, c'est ainsi, mais ce n'est pas une résignation. Alors, quant à l'effet de mode, il y a un écrivain depuis une semaine en France qui provoque un effet de mode, c'est Michel Houellebecq. Mais voilà, je dis ça comme ça, sans rien ajouter.
Mais je trouve la remarque vraiment très juste. C'est-à-dire qu'il y a... c'est développé ou se développe en ce moment dans la littérature contemporaine une dimension qui est une dimension très programmatique et très incitative. Il y a beaucoup de textes qui se proposent comme des modes d'emploi, c'est-à-dire comme autant d'invitations à son tour à être dans la production de textes littéraires ou dans l'expérimentation intime de telle ou telle situation décrite par l'écrivain. Édouard Levé, par exemple, œuvre d'Édouard Levé, bah, c'est une sorte de grande proposition programmatique. Ou alors quelqu'un comme Philippe Vassé, dans un livre blanc, il est en permanence, non pas tant dans le récit de ce qu'il a fait, mais bien plutôt dans une mise en place d'un protocole invitant à des réeffectuations collectives, d'ailleurs, plutôt qu'individuelles, des réeffectuations collectives du protocole qu'il met en place. Et il y a un programme là de recherche, un numéro qui est en cours, sur la littérature comme mode d'emploi ou comme prospectus de pratique d'écriture ou d'injonction amicale, dans le cas de Georges Perec, mais en tout cas et c'est très juste. Et ça interroge les frontières du littéraire, par exemple. Philippe Vassé, il dit, moi je ne cherche pas des lecteurs, je cherche des praticiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son livre, se voulant incitation, se veut aussi une extension du domaine de la littérature par des pratiques amateurs, par des pratiques personnelles. Voilà. Et donc ça invite dès lors à reconsidérer les frontières de ce qui est littéraire, de ce qui ne l'est pas, dans ces pratiques. Vous avez souligné une dimension politique, hein, il y a une forme d'ouverture démocratique dans ces protocoles ou modes d'emploi exposés par la littérature aujourd'hui.
Y a-t-il d'autres réactions ? Claire ?
Non, moi je vais reprendre le fil en fait qui a commencé à être tissé par Olivier sur la question de l'énergie et reprendre un peu des questionnements plus généraux qu'on a eu à travers ce séminaire sur la question de l'enquête par le sensible avec, je crois, enfin vous l'avez bien montré tous les deux, le nombre d'aptitudes qui sont engagées par l'engagement de la sensibilité dans l'enquête et le fait qu'on façonne nos sens à pouvoir capter, à pouvoir décrire, y compris en les mettant sous protocole, et la difficulté en fait de saisir un certain nombre de phénomènes de l'ordre du sensible. J'ai beaucoup apprécié en fait les mots de François sur la place du vide et je voulais vous faire réagir par rapport à un autre terme qui est celui de la résonance, parce que souvent lorsqu'on est dans la description du sensible, on est dans quelque chose qui se projette ou qui va chercher un certain nombre de sensations pour chercher à les décrire, à les saisir. Et il me semble que la résonance fournit un autre paradigme qui s'appuie sur le vide et sur le fait de laisser émerger, en fait, et de laisser résonner le sensible s'accorder à une certaine vibration. Donc voilà, je voulais juste... proposer cette distinction-là à la réflexion.
Un rebond peut-être de François, quoi, sur le...
J'ai pas entendu la question, là. Vous avez mis sans doute votre micro un peu trop loin du masque, et alors, vous voyez, le son, moi, il y a des mots qui arrivent, mais je n'ai pas des phrases, si vous pouvez...
Il est là. Okay. Approche devant la table. Que vous écoutons.
En fait, la place du vide dans l'expérience sensible et un modèle de l'enquête qui serait de l'ordre d'aller saisir et de façonner ses sens et aussi les protocoles qui sont nécessaires à capter toute une gamme de textures, de saveurs, de sons dans le sensible. Et à l'inverse, un paradigme qui partirait de la résonance, en fait, de laisser le vide et de s'accorder à une vibration qui serait de l'ordre de la résonance, en fait. Et est-ce que ce terme-là de résonance on pourrait décrire cette modalité-là de l'utilisation des sens dans ce contexte qui est un peu compliqué, qui est celui de la description des sensibilités liées à l'énergie. Voilà.
Non, mais là, écoutez, là, vous pensez exactement de la même manière que moi. Le vide, la conception asiatique du vide, c'est pas un manque, c'est pas une limite, mais c'est une force, c'est une énergie. Et alors, je trouve que vous avez raison d'utiliser le terme de résonance que j'ai trouvé en anthropologie et en sociologie chez Roger Bastide. Et là, faudrait mettre en relation résonance et raisonnement. Voyez, la résonance permet de comprendre et d'abord de percevoir ce que ne peut pas faire le raisonnement. Donc, je préfère la laisser sans trop de commentaires.
Bon.
On arrive en fin de
chers collègues,
de temps de discussion. On va laisser résonner en nous.
Un mode de connaissance vibratoire, comme dirait François, justement. Ben, en tout cas, merci beaucoup hein, à vous deux. Je pense que vous nourrissez beaucoup cette recherche en cours. Donc, un grand merci. Et puis, ben, ce séminaire, on le continue demain. Hein. Demain, on sera toujours dans ces lieux. Et je pense que là, Marc, tu as peut-être une ou deux consignes à nous donner.
Et voilà. J'aimerais dire un grand merci à tous les intervenants, Anaïs et Germain, Laurent et François, Claire, pour le portrait. C'était une journée fascinante qui a ouvert ces questions de l'anime sensible de plein de différentes manières. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le temps et on a toute une longue matinée demain à en discuter. Alors Je me réjouis. Merci. Ouais. De vous voir tous demain.
Merci. Merci à tous.